France Culture, il est midi. Bonjour à tous et bonjour Antoine Mercier.
Bonjour Raphaël.
Caroline Brouet sera de retour dès vendredi. D'ici là, j'aurai donc le plaisir d'être avec vous dans quelques instants. La première partie de la Grande Table, mais comme chaque jour, elle se déroulera jusqu'à 12h30. Et d'ici là, ou plutôt à 12h30, les informations. Et vous nous donnez quelques titres, Antoine, pardon.
Voilà, on commencera par la grève des cheminots qui perturbe fortement depuis ce matin le trafic SNCF, qui mobilise un cheminot sur deux selon les syndicats, moins d'un sur quatre selon la direction. Les négociations sont en cours sur une nouvelle convention collective, dossier suivi pour nous par Hakim Kasmi tout à l'heure. Et puis en Grande-Bretagne, ce sont les internes des hôpitaux qui ont entamé la première grève totale de leur histoire dans l'espoir de faire dérailler une réforme de leurs conditions de travail qui a été imposée par le gouvernement conservateur de David Cameron. Le groupe français des CNS, l'industrie navale de défense, remporte face à ses concurrents allemands et japonais un contrat très important, estimé à 34 milliards d'euros en vue de la construction de la prochaine génération de sous-marins australiens. En Turquie, le président du Parlement plaide pour l'abandon du principe de laïcité dans le cadre d'une réforme constitutionnelle qui a été souhaitée notamment par le président Recep Tayyip Erdogan. Et enfin, le procès des LuxLeaks s'est ouvert à Luxembourg ce matin. Trois Français, dont un journaliste, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Luxembourg. Donc, ils sont accusés d'avoir fait fuiter 22 000 pages éclairant les pratiques fiscales de grandes multinationales établies au Grand-Duché. Ils encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. L'invité de la séquence interview tout à l'heure, ce sera Philippe Bas, qui est sénateur Les Républicains de la Manche. Voilà pour les titres. C'est à vous, Raphaël Bourgois, La Grande Table.
Et La Grande Table en dernière partie, Antoine, à 12h55. On n'ira pas aussi loin que les pieds sur terre en demandant de supprimer le travail pour supprimer le chômage. Mais on se penchera tout de même à nouveau sur les transformations du travail. Cette fois-ci, en nous interrogeant sur la possibilité de dissocier le travail de la rémunération, comme semble suggérer l'idée de revenu universel de base relancée il y a peu par Manuel Valls. Quel salaire pour quel travail? On en discute tout à l'heure avec la sociologue Dominique Médaille. Vous serez avec nous, Antoine.
Tout à l'heure.
Tout de suite, rencontre autour de destins méconnus qui ont pourtant marqué une histoire importante, celle de l'indépendance de l'Algérie, celui des joueurs de la première équipe nationale de foot algérienne, objet d'une bande dessinée qui vient de sortir chez Dupuis, et celui de Nassima Ablal, Moudjahida, héroïne d'un documentaire qui sort demain au cinéma. Le scénariste, le co-scénariste d'Un maillot pour l'Algérie et la réalisatrice de 10 949 femmes sont nos invités. Bonjour Chris et bonjour Nassima Guessoum.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai adhéré, donc ça devait être en décembre 54, j'ai adhéré au
FLN.
Au FLN, Front de Libération Nationale. Moi j'étais une révolutionnaire, hein, et la révolution ça passait avant tout. Je pensais pas à ma vie, à mon mari, à ma... Je faisais la révolution, je voulais l'indépendance, je voulais arriver à avoir l'indépendance, c'était tout ce qui m'intéressait.
L'émotion avec l'équipe d'Algérie était plus grande que celle avec l'équipe de France. Cette équipe, c'est une équipe merveilleuse. Parce qu'on compensait le manque de technique par la volonté, le désir de gagner, par la volonté de faire briller cette équipe et ce pays. Et souvent, on a pensé à l'Algérie.
Les voix de Nassima Ablal et de Rachid Mekloufi, deux personnages importants de l'histoire algérienne et deux personnages qui irriguent chacune de vos deux œuvres. Chris, donc co-scénariste avec Bertrand Gallic de cette bande dessinée Un maillot pour l'Algérie, sortie dans la collection Air Libre chez Dupuis. Au dessin, c'est Ray. Une bande dessinée, donc comme je le disais, qui revient sur cette première équipe algérienne, équipe du FLN, donc en 58, avant évidemment les accords d'Évian en 1962, et on a entendu également Nassima Ablal, qui est l'héroïne, on peut le dire, Nassima Guessoum, de votre film 10 949 femmes. 10 949, c'est le nombre de Mujahideen qui ont été reconnus officiellement, en tout cas, par le gouvernement algérien. Deux objets culturels qu'on avait envie de rapprocher à la Grande Table parce qu'ils interrogent tous deux cette mémoire de la guerre d'Algérie et cette mémoire de chaque côté de la Méditerranée, car l'histoire, notamment Chris, de cette équipe algérienne, elle n'est plus du tout connue. On a entendu là Rachid Mekloufi, qui était un joueur très important, joueur de l'AS Saint-Etienne. On l'entendait dans un documentaire récent sur les rebelles du foot qui était passé sur Arte, donc il avait un peu remis au goût du jour cette histoire, mais c'est vrai que c'est pas une histoire très très connue.
Non, c'est même exactement ce qui nous a poussé à la raconter, nous, petits Français de 2016. Mais malgré tout, fondu de football et fondu d'histoire, et d'histoire du football par la même occasion. Et lorsqu'on est tombé sur cette histoire par hasard, lors de recherches sur Internet avec Bertrand Gallic, tout de suite, le simple fait qu'on n'avait jamais entendu parler de cette histoire-là nous a titillé. Pour un scénariste, trouver des histoires cachées, évidemment, c'est un petit trésor, ce sont nos cavernes d'Ali Baba. Et dès qu'on a commencé à fouiller, on a vite compris qu'il y avait une histoire en or également là-dessous, mais qu'il allait falloir prendre beaucoup de temps pour les recherches et pour reconstituer le parcours, du moins en France.
Vous êtes un habitué, puisque on vous doit d'autres bandes dessinées, comme Un homme est mort, qui sont des bandes dessinées à caractère documentaire, à caractère historique, véritablement. C'est un genre que vous affectionnez en tant que scénariste.
Oui, c'est une démarche que j'aime bien, puisqu'Un homme est mort aussi racontait l'histoire d'un film de René Vautier qui avait disparu. C'est vrai qu'on est beaucoup... Alors l'histoire ne m'intéresse que si elle parle au présent. En l'occurrence, cette histoire d'un maillot pour l'Algérie brasse des thèmes qui nous sont totalement actuels encore, notamment
la construction d'une identité.
La construction d'une identité, c'est quoi un pays, l'identité nationale? Est-ce que c'est un territoire, des barbelés, des frontières, ou est-ce que c'est une bande de types qui jouent ensemble et acceptent de vivre ensemble? Ça posait toutes ces questions-là. Et puis, au-delà de ça, il y avait une aventure humaine, sportive. Enfin, voilà, il y avait énormément de choses pour nous réunir autour de ce livre-là. Et ça nous a pris 3 ans et demi, mais on en est content.
Voilà. Les barbelés, la frontière, le drapeau, l'hymne national, Nassima Guessoum, ce sont aussi des éléments importants, évidemment, qui sont abordés par Nassima Ablal, votre personnage. Alors, on peut pas dire que l'histoire des Mujahideen soit inconnue véritablement, mais c'était pas forcément le personnage mis en avant, le plus mis en avant.
Non, enfin, dans la mesure où Nassima Ablal, elle fait partie en fait des premières militantes qui sont engagées en fait dans les partis nationalistes, donc dès 1945, dans le PPA, le Parti du Peuple Algérien. Et c'est vrai que les femmes étaient quand même assez rares à participer, à faire partie d'un parti politique. Et c'est à partir des événements de Sétif en fait qu'il y a eu la création d'une branche féminine. Et elle y a tout de suite adhéré, elle avait 16 ans.
Sétif, c'est donc le 8 mai 45, c'est là-dessus que commence aussi votre bande dessinée, Chris, le 8 mai 45. Les manifestations, les autorités françaises autorisent une manifestation pour célébrer évidemment l'armistice, et des éléments du FLN, enfin, ce qui sont peut-être pas encore le FLN, je suis peut-être pas assez calé historiquement, pardon. C'est tout d'un coup, je me rends compte que c'était probablement pas encore le cas, mais bref, des éléments indigènes, comme on disait à l'époque, manifestent leur volonté, sortent des drapeaux algériens et manifestent leur volonté d'indépendance.
Oui, il y a, en fait, ça devait être une manifestation pacifique, et il y a eu un mort, enfin les policiers ont tiré, et s'en est suivi des meurtres commis par des gens du PPA, parce que c'était le PPA à l'époque, et il y a eu une répression féroce qui a eu lieu dans toute la région, pas seulement à Sétif, à Guelma, à Kherata. Et du coup, bon, alors on n'est pas d'accord sur le nombre de morts. Les Algériens estiment autour de 40 000 morts. La France dit entre 6 000 et 10 000. C'est
exactement,
ça.
Ouais.
Mais ça, les chiffres, c'est toujours une grande bataille. Et d'ailleurs, c'est ce qui motive Nassima Ablal, parce que en rentrant chez sa tante, elle découvre sur le long de la route les cadavres en putréfaction. Qu'on expose, en fait. C'est un peu le... Pour rejoindre ce que dit...
C'est fondateur également pour nous, puisque 4 des membres du 11 historique de l'équipe du FLN sont de Sétif, sont jeunes, quand les événements interviennent. Rachid Mekloufi a 9 ans, Kermali, Rouaï ont 12 et 13 ans, Mokhtar Haribi en a 19. Et tous ont été marqués par ces événements. Et c'est ce qui les a vraiment décidés, 13 ans plus tard, à s'engager sans trop se poser de questions, en réalité, au final, alors qu'ils avaient plutôt une bonne situation en France et qu'ils vivaient plutôt heureux en France.
Oui, dans cette histoire qu'on va raconter, Chris, mais je voulais d'abord vous poser encore une question un peu commune à tous les deux. C'est l'importance de l'incarnation, finalement, dans chacun de vos deux, enfin, de votre bande dessinée et de votre film. C'était important de raconter cette histoire aussi incarnée à travers les yeux d'une personne, avec oui. tout ce que ça comporte évidemment aussi de comment dire de subjectivité.
Oui, oui. En fait, l'idée. Bon, voilà. Pour résumer, voilà. Moi, j'ai fait des études d'histoire auparavant quand j'étais étudiante. Et je suis franco-algérienne, je suis née à Paris, mais voilà, j'ai la double nationalité. Et c'est un pays voilà qui est très important pour moi. Depuis que je suis petite, j'y vais. J'ai fait un long séjour en 99. Et je trouvais que effectivement, bon, d'une part, il y a quand même beaucoup de non-dits, de tensions autour de ce qu'on appelle la guerre d'Algérie en France et la révolution en Algérie. Et moi, j'avais besoin, en fait, en dehors du sigle, Front de Libération Nationale et d'une guerre, savoir en fait qui y avait derrière tout ça et la possibilité d'incarner un récit algérien. Voilà, c'était ça. Qui étaient ces gens? Pourquoi ils militaient? Et d'autant que les femmes étaient encore plus invisibles, pour moi en tout cas, qui avaient besoin d'une figure d'identification en quelque sorte. Je suis allée de l'autre côté de la Méditerranée, encore une fois, et voilà, j'ai cherché un personnage qui serait capable de prendre en charge ce récit-là et de pouvoir le transmettre, pas seulement à moi, mais le transmettre en France, en fait. Voilà comment j'ai rencontré Nassima Ablal, qui est militante du FLN, mais qui n'avait pas de langue de bois aussi. C'est-à-dire qu'elle, autant...
Oui, elle y va très très fort, oui. Notamment sur l'après-indépendance,
et même, avant.
Même juste avant, bon, les oui. enjeux de pouvoir, oui. Les meurtres à l'intérieur du FLN, évidemment.
Voilà. C'est-à-dire qu'elle était capable d'avoir une distance politique et de parler de ses désillusions, de ses déceptions, des tensions, des conflits, etc. Tout en maintenant quand même, je veux dire, sans avoir de regrets par rapport à l'engagement qu'elle a tenu. Et ça s'est jamais remis en cause. Et puis par ailleurs, c'est un personnage solaire. Elle chante tout le temps, elle est drôle. Elle a une manière d'occuper l'écran et de captiver qui était c'est presque un don quoi d'avoir.
Un tramway, je crois, à l'époque, il y avait des tramways, ou là, juste ou là. Il y a un monsieur qui se lève et qui m'offre sa place. J'étais une demoiselle hein, d'une vingtaine d'années. Alors moi, je dis à ma mère qui était voilée, moi, je n'ai jamais porté le voile, mais elle était voilée. Je dis, assieds-toi, maman, elle s'assoit. Alors il se tourne vers elle, il lui dit, c'est pas pour toi, Fatima, c'est pour mademoiselle. Alors je lui dis, oui, mais cette Fatima, c'est ma mère. Ils étaient d'un racisme incroyable. Les Algériennes, celles qui sortaient, bien sûr qu'elles montaient. Voilées, elles montaient. Mais voilées, elles restaient debout.
Voilées, elles restaient debout. Voilà, c'est aussi, on l'entend, tout ce que vous nous disiez, à la fois ce côté solaire de votre personnage, de Nassima Ablal, et en même temps, l'incroyable dureté de l'environnement dans lequel elle évolue. Donc elle le dit, elle fait des études, elle est européanisée.
Oui.
Mais elle en reste pas moins renvoyée à sa condition d'indigène.
Oui, oui, quand il s'agit de sa mère, là, elle se prend en pleine figure. Voilà, la ségrégation sociale, le racisme, etc. Bon, c'est une des choses, je pense, qui aussi la motive, quoi. C'est cette profonde injustice sociale, même si elle n'en est pas victime directement. Ce sont des choses qu'elle constate au quotidien.
C'est aussi une motivation politique. Elle dit qu'elle rencontre des étudiants de gauche. Oui. C'est une motivation de gauche. C'est ce qui apparaît pas toujours forcément, évidemment, aujourd'hui. Quand on analyse, on voit peut-être la guerre d'indépendance algérienne comme un bloc. Mais il y avait véritablement des motivations différentes, comme il a pu y en avoir des différentes dans la résistance
oui,
française.
Oui, mais à l'origine même du mouvement nationaliste algérien, c'est peu connu, mais l'origine du PPA, c'est l'étoile nord-africaine. Et cette étoile nord-africaine, elle est née dans le milieu ouvrier en France et dans les milieux communistes, en fait, avec le Parti communiste. Donc après, ça a évolué. Ça s'éteint d'autres tendances, et même au sein du FLN, qui a été un ralliement de plusieurs partis politiques, y compris le Parti communiste algérien, qui a rejoint la tête du FLN, plus ce qu'on appelait l'UDMA, et des gens du MTLD. En fait, c'est la réunion de plusieurs tendances politiques. Ça, on ne le sait pas, hein, c'est moins connu, parce qu'effectivement, il y a une tendance, on va dire, autoritaire dans le FLN, qui veut apparaître comme un bloc indivisible. Mais il y avait des tendances très différentes.
Ça, c'est l'histoire qui est reconstruite ensuite, après l'indépendance.
En tout cas, c'est ce que j'appelle, moi, le roman national. Voilà.
Chris, moins de politique peut-être dans votre bande dessinée, quoique.
Quoique, ça passe par le. Ça s'incarne dans le football quand même, parce que quand on entend Rachid Mekloufi en parler, il dit souvent nous étions des hommes libres sur le terrain. Et effectivement, c'est pas anodin, même leur façon de jouer, ils se devaient d'être spectaculaires. Parce qu'ils étaient là pour promouvoir une cause, il fallait pas que les gens s'ennuient. Fallait qu'ils marquent des buts, il fallait qu'ils gagnent des matchs. Et leur point d'orgue, on va dire, est une victoire 6-1 contre la Yougoslavie, qui est une des meilleures équipes européennes à l'époque, au Maracana de Belgrade, devant 100 000 personnes, où ils jouent en second match, c'est-à-dire du point de vue yougoslave, en match, ce que nous on aurait appelé un lever de rideau, en fait le match le plus important est avant. Et les spectateurs s'apprêtent à quitter le stade quand, dès le début du match, ils se rendent compte que cette équipe est extraordinaire. Et dans les tribunes, il y a l'ambassadeur de France. Autant vous dire que le score de 6-1 n'est sans doute pas non plus arrivé par hasard ce jour-là. Donc ça s'incarne quand même avant tout dans le sport. Ça n'empêche pas qu'ils étaient également en lutte et qu'on peut tout à fait parler de politique.
Ouais. Ouais, question de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules, évidemment. Donc peut-être raconter pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette histoire. On va faire un peu le même travail pédagogique qu'on vient de faire avec Nassima Guessoum. C'est une équipe donc formée essentiellement de joueurs algériens jouant en France, en métropole, puisqu'à l'époque l'Algérie est encore française, évidemment, et qui un jour, une nuit, juste après une journée de championnat, décident de tous partir en bloc. Comment ça se passe exactement, Chris?
Oui, ça a été préparé des mois à l'avance par la Fédération de France du FLN, notamment par un homme qui s'appelle Mohamed Boumezrag, qui avait participé aux Jeux de la Jeunesse à Moscou et avait vu la force politique du sport, notamment utilisée par les pays communistes. Et donc, il a eu l'idée, le premier, ce qui est très moderne quand même, même si on peut citer les JO de Berlin en 36 aussi, comme utilisation politique du sport, mais vraiment qu'une équipe soit utilisée dans une lutte d'indépendance, c'est la communication politique.
Le parallèle. Moi, j'aurais plutôt fait le parallèle avec l'équipe de RDA, la première équipe qui va loin en Coupe du Monde et qui ont dit que c'est le fondement de la renaissance de l'Allemagne démocratique.
Mais la RDA n'est pas en lutte. La RDA n'est pas en guerre. Ouais. À ce moment-là, réellement, on peut parler de guerre froide, mais enfin, on parle pas d'une lutte d'indépendance quand même. De l'utilisation à ce point-là d'un mouvement sportif dans une guerre.
Bon,
on parle de communication politique. Et Hitler était dans la communication politique vis-à-vis de son mouvement en faisant les JO de Berlin. Et, le FLN, lui, se dit, on va utiliser cette équipe vraiment comme des guerriers, mais sans armes. Et ils vont sélectionner les joueurs, ils vont aller les voir les uns après les autres. Alors certains d'entre eux, les plus anciens, sont très politisés, Mokhtar Haribi notamment, et Bentifour. Bentifour qui est membre du FLN et dont le bar à Nice, puisqu'il possède un bar, sert à collecter l'impôt révolutionnaire notamment. Donc certains sont quand même extrêmement politisés avant de partir. Les autres sont plus jeunes, notamment Rachid Mekloufi, qui est quasiment le Benjamin, il a 22 ans. Et on va les chercher et on leur dit... Est-ce que tu es prêt à partir pour former la première équipe d'Algérie? Ils disent tous oui, mais sans en savoir plus. Et c'est seulement 48 heures avant qu'on va les prévenir que dimanche soir, effectivement, après une journée de championnat, tous doivent partir par la Suisse ou par l'Italie. Ils sont 12, deux d'entre eux sont arrêtés. Ce qui fait qu'ils n'arrivent à 10, incomplet, mais ils trouvent un 11e joueur sur place à Tunis. Et à partir de là, va démarrer réellement leur aventure jusqu'en 1962.
Mais c'est ma question. Vous avez lu Un maillot pour l'Algérie, cette bande dessinée donc de Regalik et Chris. C'est une histoire que vous connaissiez?
Oui, bien sûr.
Elle est connue en Algérie.
Elle est connue en Algérie, mais bon, pour reprendre, enfin, moi je trouve que le parallèle est un peu délicat que vous avez fait. Je pense qu'il y a d'autres moyens de politique, mais bon, bref. C'est vrai qu'à partir de, en fait, à Tunis, vous avez le gouvernement provisoire de la République algérienne qui est très lié à la Fédération de France du FLN, qui elle-même est en Allemagne. Et donc, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a une internationalisation du conflit, parce qu'il y a une forte inflexion diplomatique, en fait, de la part du FLN, qui comprend à ce moment-là, parce que juste avant, il y a des histoires, enfin, ils veulent poser la question algérienne à l'ONU, ils sont alliés de pays communistes, Chine, tous les pays de l'Est, du bloc de l'Est compris, et ils comprennent que la victoire, elle se fait pas simplement sur le terrain, on va dire, de la guerre, concrète, sur le terrain armé, mais qu'elle se fait au niveau politique. Et cette histoire du match de foot, enfin de l'équipe de football, elle est aussi faite avec une troupe théâtrale qui va justement en 57 à Moscou. Voilà, il y a cette histoire-là, oui.
On voit bien, Chris, que c'est une histoire qui est prise aussi, vous parliez de la guerre froide, ils font toute une tournée en Europe de l'Est, dans les républiques socialistes, c'est aussi ce qui se joue à ce moment-là, c'est à cette dimension internationale.
Oui, de toute façon, de fait, ils sont interdits ailleurs. La FIFA ne les reconnaît pas et même menace de sanction toute équipe qui jouerait contre l'équipe d'Algérie. Ce qui fait qu'ils sont obligés des fois de contourner également cette interdiction en disant qu'ils jouent contre une équipe de ville ou une sélection sélection de joueurs, sans dire que c'est officiellement l'équipe de Pologne ou de Bulgarie qu'ils affrontent. Mais donc effectivement, essentiellement, ils jouent contre des pays africains, arabes, asiatiques. Hein, ils vont jusqu'au Vietnam et en Chine, et notamment beaucoup en Europe de l'Est, où d'ailleurs ils auront un accueil extrêmement varié selon les pays. D'un véritable amour en Roumanie et en Russie, en URSS également, jusqu'à un véritable accueil raciste en Pologne, qui refuse de jouer l'hymne algérien, qui refuse le drapeau, et au moment duquel ils sont obligés vraiment de faire pression et de menacer de ne pas jouer s'ils ne sont pas reconnus comme équipe nationale.
Alors, il y a aussi des risques pour ces joueurs, on le voit dans la bande dessinée, des risques de prison. Qu'est-ce qui motive à l'époque le fait d'enfermer, d'interdire à ces joueurs de partir, tout simplement, de quitter le territoire de la métropole?
Alors déjà, deux d'entre eux sont des militaires. Ils font leur service militaire, dont Rachid Mekloufi, encore une fois, qui est au bataillon de Joinville, hein, ce fameux bataillon consacré aux grands sportifs. Donc, ils sont considérés comme déserteurs. Ça suffit déjà à les jeter en prison. Et ensuite, ils vont tout de même rejoindre une organisation qui est qualifiée de terroriste à l'époque. Là, forcément, ils prêtent le flanc. Ce qui est terrible quand même pour ces joueurs-là, c'est que ils se retrouvent apatrides. De fait, ils sont considérés comme traîtres à la France, et l'Algérie n'existe pas encore. Donc ils sont quelque part l'Algérie, comme tout mouvement artistique aussi se revendiquant, mais ils sont d'une équipe d'un pays qui n'existe pas encore. Et en 58, on est loin encore d'imaginer éventuellement que l'indépendance est pour demain, ce dont ils vont vite se rendre compte, passer l'exaltation du départ.
Alors je parlais de la prison, Nassima Guessoum, la prison, Nassima Ablal, votre personnage l'a connue, elle en parle dans votre film et elle en parle de cette manière.
J'ai passé 3 mois à l'hôpital avant d'aller en prison. Après, quand ils m'ont fait monter, ils m'ont mis dans une salle où il y avait des Françaises. Ils ne voulaient pas que je sois en contact avec
les Algériennes.
Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Alors je suis rentrée dans cette salle, mais le lendemain, je changeais. Je suis allée où je voulais aller. Alors, on ne tenait pas compte. On faisait la loi, nous, en prison. On faisait la loi, Allah. On faisait la loi. Il faut voir, quand ils exécutaient les hommes, qu'est-ce qu'on faisait. On criait, on chantait des hymnes nationaux. On faisait la grève de la faim. Pendant une semaine, on ne mangeait pas.
Voilà, on entend encore ce personnage de votre film, Nassima Guessoum, 10 949 femmes, qui sera demain au cinéma. Voilà, ça c'est le moment où elle est arrêtée, torturée. Ça, elle vous le racontera un peu plus tard, je crois. Oui, c'est quelque chose qui a mis du temps à venir.
Ça a mis du temps à venir
et
finalement c'est...
Le film a été tourné sur 5 ans, je crois.
Oui, c'est ça. Et finalement, c'est même pas elle qui le raconte, en fait. C'est moi qui le raconte à partir d'un de ses écrits. Et oui, en fait, elle a été torturée, oui, dans différents centres de torture, mais un en particulier qui est la Villa Sévigny, qui est un centre de torture connu. Et puis ensuite, une fois qu'ils l'ont retapée à l'hôpital, ils la présentent en jugement. Elle est condamnée à 5 ans de prison pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et là, elle passe de prison en prison, de la prison de Sercadji à celle de Maisoncarrée, puis en France, prison de La Roquette, de Caen, de Rouen, puis de Pau. Et quand elle est en permission, elle s'échappe. Elle rejoint la Fédération de France du FLN en Allemagne, puis à Tunis, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Et elle constate un peu ce qu'il y a dans votre BD. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup les joueurs faire la fête, draguer les filles, etc. Et elle dénonce un peu dans le film ce côté où elle voit qu'en fait, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de l'Algérie, enfin, c'est son point de vue. Par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de l'Algérie, elle a l'impression que de l'autre côté, on s'amuse un peu plus. Et c'est assez montré dans la BD, je trouve. Ce côté.
Là, pour faire un autre parallèle, qui est celui de la France libre et de la résistance. La résistance qui, quand même, dans la clandestinité, je pense qu'ils étaient loin de s'amuser au quotidien. La France libre, on sait bien qu'à Londres aussi, il y avait une vraie vie civile qui a pu perdurer. Et que ça devait être plus agréable d'être français libre que d'être résistant au fin fond de Paris ou de la province. Après, c'est encore une fois, c'est un esprit d'équipe aussi. Ça soude une équipe de vivre ensemble. Ils sont avec leur famille, il ne faut pas oublier ça. Les familles aussi doivent avoir une vie, c'est-à-dire qu'ils sont tous mariés quand ils sont mariés avec des métros, c'est-à-dire des jeunes femmes qui sont nées en Sarthe, en Haute-Savoie, et qui se retrouvent avec leurs enfants à Tunis avec le salaire du Felaga, quand leurs maris sont souvent aussi assez loin en tournée, etc. Faut imaginer quand même ce qu'ont dû aussi vivre ces femmes-là, qui pour la plupart d'entre elles ont tenu, ce qui est, puisqu'on oublie aussi les femmes souvent. Dans le livre, on rate un aspect, par exemple, qu'on a découvert seulement après la sortie, qui est le fait que Monique Roy, l'épouse d'Amaroy, un des joueurs, était militante communiste, par exemple, et qui est vraiment celle qui soutenait beaucoup cette dimension-là. Elle est importante à souligner, on l'a découvert qu'après. Voilà.
Merci. Une question sur cette idée de la fête. Il y a quand même cette amie de Baya. Baya qui dit voilà, moi je voulais quand même aussi, quand je suis redescendu du maquis, je voulais faire la fête, j'avais 20 ans, et les frères me disaient non, tu fais pas la fête, parce qu'il y a cette dimension-là aussi, malgré tout, un peu comme dans La Résistance, puisqu'on en parlait, les femmes étaient parfois un peu reléguées, malgré tout, à des tâches subalternes, ou est-ce que ça a été différent?
Nassima, non, elle n'était pas dans une tâche subalterne, parce qu'elle était agent de liaison entre l'instance politique du FLN et l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, donc elle n'était pas du tout dans cette position-là. Bayal était infirmière, en fait, dans les maquis, comme elle était infirmière de formation. Non, c'est-à-dire qu'il y avait un contrôle sur les militants, c'est-à-dire qu'elle se retrouve... les gens avec qui elle était au maquis, c'était plutôt des citadins de la ville, parce qu'elle était dans la région d'Alger, qui avait une grande ouverture d'esprit, une grande liberté, etc. Elle était étudiante, je veux dire, elle gagnait sa vie, son argent, elle avait un père très ouvert. Elle se retrouve à Tunis. Et là, c'est une autre armée, l'armée de l'extérieur, qui n'ont pas la même genre de camaraderie et qui veulent contrôler une partie des militants, y compris les femmes. Et là-dessus, bon, bah, elle ne se laisse pas faire d'ailleurs. Enfin, je dirais, c'est une insoumise, Baya. Et en plus, elle ne veut pas dépendre de cette petite pension, non pas de Feilaga, mais Moudjahid, qu'elle a. Donc du coup, elle se met à travailler. Elle travaille comme infirmière dans un hôpital à Tunis, oui. Mais effectivement, il y a une volonté de contrôle comme ça, des militants en général et des femmes en particulier, oui.
Ouais, Chris, ça apparaît aussi dans votre bande dessinée, cet encadrement très, comment dire, très rude et très précis du FLN, même sur les joueurs de foot, qui doivent se rappeler qu'ils sont des combattants, autant que de joueurs de foot.
Oui, ils ont un commissaire politique qui les suit en permanence et qui sait leur rappeler à la mi-temps d'un match où ils sont menés contre le Maroc, par exemple, qu'il est hors de question de perdre. Après, Rachid vous dira que bon, ils gardaient quand même une vraie liberté et que c'était plutôt entre eux que ça se passait, de savoir se dire les choses aussi quand ils n'étaient pas à la hauteur et qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de cette conscience politique derrière. Ça n'empêche, il n'y a pas eu de débordement à notre connaissance en tout cas, il n'y a pas eu de joueurs qui auraient fait des choses répréhensibles en tournée ou sur le terrain ou vis-à-vis de l'équipe. Ça n'empêche qu'ils étaient encadrés, ouais.
Alors c'est vrai que, on le disait au début de cette émission, il y a une question mémorielle très forte, évidemment, dans chacun dans votre bande dessinée et dans votre film. Rachid Mekloufi se plaint souvent, pas ici, mais j'ai pu lire par ailleurs, du fait que cette histoire finalement de l'équipe du FN soit assez peu connue, même, en tout cas pas raconté de cette façon-là, même en Algérie. Vous, Nassima Ablal, c'est vrai que vous l'avez dit, cette histoire des femmes engagées dans la guerre d'indépendance algérienne, dans la révolution, quel que soit le mot qu'on emploie, c'est aussi une histoire peu connue. Comment est-ce que c'est reçu d'après vous, Nassima, notamment? Je crois que vous l'avez montré le film en Algérie. Comment est-ce qu'il a été reçu? Est-ce que Chris, la bande dessinée, va arriver jusqu'à Alger? Mais Nassima Guessoum.
Alors en fait, c'est pas que l'histoire des femmes est peu connue, c'est qu'en fait, elle est mise en valeur uniquement à travers celles qu'on appelait les poseuses de bombes, en fait. Voilà, celles qui faisaient partie des commandos de choc, donc des commandos terroristes. Du coup, alors que celles-ci sont minoritaires parmi les moudjahidettes, elles sont moins d'1%, ça efface totalement les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc toutes celles qui étaient dans l'action politique, et ce qui n'est pas valorisé... dans ce que j'appelle le roman national, toujours, parce que c'est l'armée qui a pris le pouvoir, ce ne sont pas les politiques, et c'est l'armée qui règne toujours d'une certaine façon en Algérie. Voilà, l'action politique qui raconte justement peut-être des différents courants, non pas l'unité complète du FLN, ben ça, en tout cas, on ne veut pas en parler. Et puis, Nassima fait partie des vaincus, elle était la secrétaire d'un leader politique, Aban Ramdan, qui lui, était ce qu'on appelait la tête pensante de la Révolution, qui est l'auteur de la plateforme de la Soumam, c'est un texte fondateur de politique du FLN, et il a été assassiné en décembre 57 au Maroc par des rivaux, par des chefs rivaux. Donc voilà, c'est les vaincus qu'on veut effacer. Donc il y a beaucoup, en fait, je pense qu'en Algérie, Il y a énormément de gens qui se sont sentis trahis. Alors, qui, le joueur de FL, les joueurs de l'équipe de foot, qui de telle branche du FLN ou de la lutte, qui de, et du coup, en fait, ça fait beaucoup de comment dire, pas d'aigreur, mais en tout cas de frustration, et tout le monde se sent privé ou privé en fait d'une mémoire. Il y en a plein qui, il y a plein de revendications dans ce sens-là.
Chris, sur cette idée de mémoire, peut-être du côté français à ce moment-là, sur cette histoire de l'équipe de foot de FLN.
Je pense surtout que l'histoire, elle appartient toujours au présent et qu'on la réinterroge sans cesse selon des nouvelles problématiques. Et qu'aujourd'hui, c'est pas un hasard si on s'attaque à cette histoire, puisqu'on parle beaucoup du problème des binationalités, etc. et tout ça. Et ça interroge aussi, ça. Voilà.
On se quitte sur la musique de Wardal, Jaiziria, excusez-moi pour mon accent, Nessima Guessoum, cette chanteuse, grande chanteuse algérienne qu'on retrouve aussi dans votre film 10 949 femmes qui sort demain au cinéma. Merci à Chris Saint-Maillot pour l'Algérie, c'est donc chez Dupuis dans la magnifique collection Air Libre. Vous signez, co-signez le scénario avec Bertrand Gallic, le dessin est de Ré et on peut chacun de vous retrouver cette semaine dans Un autre jour est possible, l'émission de Tofik Hakem. Ce sera mercredi pour vous Nessima et vendredi pour vous, Chris. Voilà, j'y arrive. Merci à tous les deux.